Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous, merci pour vous être connectés très nombreux aujourd'hui. L'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de sensibiliser le plus grand public à cette réforme d'ampleur et très profonde qu'est la facturation électronique obligatoire. Au MEDEF, nous y travaillons depuis quelques temps déjà, je laisserai peut-être François en dire un mot, mais on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Céline Fracovia, qui est la chargée de mission, qui est en charge de cette réforme de la facturation électronique côté Bercy, et qui va faire cette présentation aujourd'hui. Alors, on sait que les niveaux de connaissances sur ce sujet sont assez hétérogènes, donc on va essayer de faire quelque chose qui, je crois, conviendra au plus grand nombre. Et je laisse maintenant la parole à François pour compléter cette introduction.
Bonjour à tous. Oui, en quelques mots, pour passer très rapidement à l'essentiel, on rentre dans une phase assez importante de communication autour de l'entrée en vigueur de cette obligation. On va en rappeler tout à l'heure le calendrier. On voit qu'on est dans une sorte d'accélération du temps et de la sensibilisation des entreprises, d'où l'importance de ce webinaire qui peut être c'est le deuxième pour nous, mais c'est peut-être l'un des derniers assez généraliste pour poser les bases, et puis au fur et à mesure de l'avancée en communication, on va rentrer sur des sujets de plus en plus opérationnels, de plus en plus précis, et donc profitez bien de ce moment, pour vous-même ou pour le relayer auprès de vos adhérents ou auprès de vos relations de travail ou vos relations d'affaires, fournisseurs ou clients. Je pense que c'est important que ces messages circulent bien, qu'il y ait une première prise de conscience, on n'en est plus là, mais sensibilisation, une bonne intelligence de ce qui va arriver pour pouvoir justement avoir les bases pour aller plus loin. Et donc, merci à Céline Fracovia qui est à la mission facturation électronique de Bercy pour les relations qu'on a quotidiennement sur le sujet et plus particulièrement pour sa présence aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole.
Merci François. Effectivement, donc l'objectif de cette session, c'est de vous délivrer une information de premier niveau sur la réforme qui va se déployer, comme François l'a dit, à compter de 2024. Donc l'idée, c'est que chacun puisse, au sortir de cette réunion, peut-être être au clair déjà sur les grands objectifs de la réforme, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la Direction générale des finances publiques et l'Agence pour l'informatique de l'État qui l'accompagne sur cette réforme ont mis en place ce projet de facturation électronique, et puis surtout qui est concerné, quand, qu'est-ce qu'on doit, quand on est une entreprise, faire dans le cadre de cette réforme en termes de facturation électronique, de ce qu'on appellera aussi le e-reporting, et puis également tout simplement comment transmettre ces factures électroniques dans le cadre de la réforme, comment transmettre ces données. Donc ça suppose qu'on s'intéresse au rôle des plateformes de dématérialisation. On pourra aussi terminer en disant quelques mots de l'accompagnement, de la communication, parce que bien évidemment, c'est une réforme où l'État attend beaucoup des entreprises, mais parce qu'on en attend beaucoup, l'idée est aussi que l'administration soit aussi aidante que possible. Donc c'est un enjeu également en termes d'accompagnement, conduite du changement pour la DGFiP et pour l'AIFE. On vous propose de tenir cette session en environ 45 minutes, on va dire d'information, pour laisser le temps ensuite à une quinzaine de minutes d'échange, de questions-réponses, en fonction de ce que tout ça pourra susciter chez vous. Donc tout d'abord, les grands principes de la réforme. Alors, quels sont les grands objectifs de la réforme? On n'invente pas à proprement parler la dématérialisation. On va la généraliser. Et ceux d'entre vous qui connaissent déjà un peu les marchés publics savent que la facturation électronique est en réalité déjà obligatoire depuis quelques années dans les relations du secteur public avec ses fournisseurs. Donc lorsque vous êtes titulaire d'un marché public en tant qu'entreprise, vous avez déjà l'habitude de déposer vos factures électroniques sur un portail public obligatoire, en l'occurrence Corus Pro. Là, l'objectif, il est un peu différent. Il y a un premier objectif qui fera écho à cette première réforme, c'est tout simplement que la dématérialisation, ça permet un certain nombre de gains, notamment d'économies, également de temps passé, pour se recentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, chez les entreprises. Donc la dématérialisation et la digitalisation du site de facturation pour une entreprise, c'est plus de compétitivité. Je vous donne simplement un chiffre. Pour une entreprise, le coût d'une facture électronique, c'est moins de 1 euro en cycle complet. En revanche, une facture papier, ça représente entre 7 et 10 euros selon les cas. Quand on sait que sur 4 millions d'entreprises concernées par cette réforme, on en a encore 1,5 million tout simplement ont encore un cycle de facturation exclusivement papier, c'est dire le potentiel pour elle d'amélioration en termes d'économie et aussi de temps passé. Deuxième objectif, c'est la simplification des obligations déclaratives des entreprises, tout simplement avec un pré-remplissage des déclarations de TVA qui se mettra en place au bout du déploiement, donc après les trois vagues de déploiement dont on va évoquer dans quelques instants. Troisième objectif, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Effectivement, ce projet, il va permettre aussi à l'administration fiscale, c'est pour ça qu'elle le porte, d'avoir des données fiables, massives, sur l'activité économique des entreprises. Donc ça permet effectivement de bien connaître l'activité économique des entreprises au fil de l'eau, de leur proposer un certain nombre de services, par exemple l'accompagnement des entreprises en difficulté, mais ça permet aussi à l'administration fiscale in fine de mieux lutter contre la fraude fiscale. Dans les pays qui ont déjà mis en place la facture électronique, comme l'Italie en 2019, donc sur lesquels on a déjà le bénéfice de l'antériorité, on a constaté une nette amélioration au niveau des finances publiques grâce à l'amélioration de la lutte contre la fraude, donc en Italie, de l'ordre de 2 milliards d'euros, voire 3,5 milliards d'euros en 2022, grâce au dispositif de facturation électronique pour les finances publiques. Le dispositif a été mis en place prévu avec l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022, donc qui est intervenu le 16 août 2022 et qui a vu publier donc ces deux textes d'application, un décret et un arrêté du 7 octobre 2022 dans la foulée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il était important de donner de la visibilité aux entreprises sur les attendus de la réforme, ce qu'elles allaient devoir mettre en place. C'est la raison pour laquelle, dès 2022, l'ensemble du cadre juridique a été posé pour les entreprises, pour leur donner le maximum de visibilité. Ça signifie que depuis, tous les opérateurs de dématérialisation, tous les éditeurs de logiciels notamment, aussi les plus grandes entreprises, disposent, parce qu'elles sont les premières concernées par l'obligation de facturation électronique, disposent de tout ce qui leur est nécessaire pour pouvoir avancer dans leur projet de dématérialisation. C'est un projet sur lequel on n'a pas travaillé tout seul et en chambre au niveau de l'administration. Je parlais des éditeurs de logiciels il y a un instant, on a des groupes de travail mensuels avec eux qu'on a eu au cours des années passées et qu'on continue encore pour être bien sûr que tout simplement leurs solutions soient pertinentes. On a également un groupe de travail avec les plateformes de dématérialisation, des panels d'entreprises, grandes entreprises, panels TPE, PME, et puis bien sûr on est à la disposition, mission facturation électronique, des fédérations professionnelles, quelles qu'elles soient, en l'occurrence aujourd'hui du MEDEF, mais il y en a d'autres bien sûr avec lesquels on travaille pour accompagner les entreprises. Qui va être concerné par l'obligation de facturation électronique ? J'ai dit tout à l'heure, l'objectif, l'un des objectifs de la réforme, c'est la lutte contre la fraude à la TVA. Ça signifie que, tout simplement, le périmètre de la réforme, de la facturation électronique, c'est les assujettis à la TVA. Tous les assujettis, rien que les assujettis. Ça veut dire toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit leur forme juridique, y compris donc les franchisés en base, quand bien même ils n'ont pas de déclaration de TVA, ils vont aussi bénéficier d'une concurrence plus juste, plus loyale, grâce à la lutte contre la fraude à la TVA, et y compris aussi les entreprises étrangères, lorsqu'elles sont établies en France, selon le type de transaction qu'elles vont réaliser. Ça vaut aussi pour les entités publiques, c'est-à-dire que certes, il y a un principe de non-assujettissement des entités publiques à la TVA, Pour autant, pour leurs activités à caractère industriel et commercial, elles sont soumises à la TVA et de ce point de vue, ce sont donc des assujetties comme les autres. Elles seront donc dans le champ de la réforme et devront appliquer la même chose que les entreprises. En revanche, c'est un peu comme le prélèvement à la source, cette réforme, elle va impacter finalement les modalités de collecte de la TVA. Elle ne va pas impacter le champ d'application, les types de transactions qui sont soumises ou non soumises à TVA, les exonérations, le périmètre, enfin les modalités du droit à déduction, ou éventuellement les taux qui vont être applicables. Tout ça, tout ce que vous connaissez en tant que chef d'entreprise, reste stable. Il n'y a pas de modification à en attendre. Donc on est vraiment sur une réforme certes technique, mais qui doit être aussi une opportunité pour tout simplement la vie quotidienne, la gestion quotidienne des entreprises. Pas d'impact non plus, ça mérite d'être précisé, sur les régimes de la franchise en base et des micro-entrepreneurs. Quel est le calendrier de la réforme? Alors, cette réforme, elle va se déployer en plusieurs vagues. La date la plus importante, c'est le 1er juillet 2024. Qu'est-ce qui va se passer en 2024? Tout simplement, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, vont devoir recevoir des factures électroniques. Recevoir des factures électroniques, c'est quoi? Ça veut dire quoi pour une entreprise? Ça veut dire avoir fait le choix d'une plateforme de dématérialisation, qu'il s'agisse du portail public ou d'une plateforme de dématérialisation dite partenaire. On y reviendra. Je dirais simplement que le portail public, comme les plateformes partenaires, en l'occurrence, ce sont des tiers de confiance auxquels les entreprises pourront confier leurs factures pour tout simplement la dématérialisation et la transmission des données à l'administration fiscale. Qui dit obligation de réception dit aussi obligation d'émission. Et en l'occurrence, en 2024, quelles sont les entreprises qui vont être tenues d'émettre des factures électroniques? Ce sont les entreprises, sont les plus grandes entreprises, donc les grandes entreprises et les assujetties uniques. Ça veut dire qu'à compter du 1er juillet 2024, si tout le monde, toutes les entreprises sont tenues de recevoir, seules les grandes entreprises seront tenues d'émettre des factures électroniques. Les entreprises de taille intermédiaire émettront des factures électroniques à compter du 1er janvier 2025, et les PME, TPE, micro-entreprises seront les dernières à passer à la facturation électronique à compter du 1er janvier 2026. C'est important, ça veut dire aussi que quand on est une petite entreprise en 2024, qu'est-ce qui se passe? Ça veut simplement dire qu'en 2024, quand on est une micro-entreprise, une TPE-PME, ce qui va arriver, c'est qu'on devra être en capacité de recevoir des factures électroniques. C'est la seule obligation qu'on a quand on est une TPE-PME. En revanche, si on est chef d'entreprise de TPE-PME, même si on n'a qu'une obligation de réception, si on estime plus intéressant pour son entreprise d'aller un peu plus vite, d'anticiper certaines échéances parce qu'on est à l'aise avec la dématérialisation, parce qu'on n'a pas envie de maintenir des doubles flux papier électronique pendant 2 ans, il n'y a pas de difficulté, on peut passer plus rapidement à la facturation électronique en fonction de ses capacités, de son rythme et puis tout simplement de sa maturité numérique. Quel est le périmètre de la réforme? Alors, on parle du projet facturation électronique, mais en réalité, il y a 2 versants dans ce projet facturation électronique. Le premier, ça va sans dire, c'est la facturation électronique, et d'une certaine façon, on voit tous à peu près bien, de façon intuitive, ce que c'est. Tout simplement parce que on parle du cycle de facturation des entreprises, quelque chose qu'on maîtrise. L'obligation de facturation électronique, qui est-ce qu'elle va concerner ou qu'est-ce qu'elle va concerner? Elle va concerner en fait les transactions domestiques réalisées entre assujettis établis en France, qui vont également donc s'échanger, certes des factures électroniques, mais transmettre des données de facturation à l'administration fiscale. Il y a quelques exceptions, pas très nombreuses, mais bien identifiées. La première, elle est plutôt anecdotique, c'est la question des transactions qui donne lieu à un marché de défense ou de sécurité et qui, au sens de la commande publique, donc, ne sont pas soumises, compte tenu de leur sensibilité particulière, de leur objet, à la facturation électronique. La deuxième catégorie de transactions, ce sont les opérations qui sont exonérées et dispensées de facturation au sens des articles 261 à 261E du Code général des impôts. C'est par exemple des activités de formation professionnelle, des activités bancaires, d'assurance ou encore des professions, les professions médicales. Un point de vigilance tout de même, pour certains secteurs, c'est vrai que il faut faire attention aux libellés de ces articles, donc 261 à 261e, parce qu'effectivement, je prends l'exemple des professions médicales, ces activités sont hors champ de la réforme. Pour autant, dans certains cas, en fonction des transactions, eh ben, on peut être une profession avec étant tout simplement assujetti partiel. Je prends l'exemple des activités bancaires. Il y a grosso modo 80% des activités qui sont couvertes par les dispositions du Code général des impôts que j'ai citées, qui permettent donc d'être exclues de la réforme. Mais pour 20% des activités, les banques seront couvertes par cette réforme. Donc ça veut dire qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis un assujetti établi en France ? Et donc soumis à la facturation électronique, est-ce que je suis un assujetti partiel, et auquel cas il faut identifier, cartographier ces transactions, ces flux, et vérifier lesquelles sont dans le champ de la réforme, celles qui en revanche n'y sont pas et pour lesquelles il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien qui change. Il y a un deuxième dispositif toutefois qui va être mis en place dans le même temps que la facturation électronique, c'est le e-reporting. Qu'est-ce que c'est que le e-reporting et à quoi ça sert? Le e-reporting, c'est une transmission déclarative des entreprises concernant la transmission de données de transactions. Ce ne sont pas toutefois les mêmes transactions que celles de la facturation électronique. La facturation électronique, c'est pour les transactions domestiques entre assujettis établis en France. Le e-reporting, c'est pour les transactions tierces, les transactions qui en fait sont pas solubles dans la facturation électronique. Pourquoi pas solubles ? Parce que dans le cas des transactions non domestiques, donc pour le dire de façon plus directe, les transactions à caractère international ou intracommunautaire, ben, on ne peut pas imposer la facturation électronique du fait des règles de territorialité de la TVA. De fait, si on veut proposer aux entreprises un préremplissage de la déclaration de TVA, il faut une exhaustivité du périmètre, du champ, du panorama de leur activité. Donc, il faut aussi qu'on ait, côté administration, de la visibilité sur ces catégories de transactions. D'où la nécessité de ce mécanisme de e-reporting, parce qu'on ne peut pas acheminer ces données de façon aussi directe que par la facturation électronique. Ce que je dis vaut aussi pour une autre catégorie de transactions, c'est-à-dire les transactions en B2C. C'est quoi ? Ce sont les transactions réalisées entre une entreprise qui est assujettie à la TVA établie en France et un non-assujetti, par exemple un particulier ou une association à but non lucratif. Effectivement, ben, quand on est artisan boulanger, qu'on réalise des transactions tout simplement toute la journée avec des clients particuliers, on va faire un e-reporting. Cet e-reporting, par contre, il va être globalisé à la journée. En d'autres termes, on aura, côté administration, jamais connaissance d'une transaction à titre individuel ou être en capacité de l'individualiser, la singulariser. Et on n'aura pas non plus d'informations, et ça c'est important vis-à-vis des règles de protection des données à caractère personnel, on n'aura pas non plus d'informations sur l'identité du client. Donc, facturation électronique pour les transactions domestiques et avec les données de facturation que vous connaissez déjà, ce sont les données de l'article 289 du Code général des impôts et du code de commerce que vous placez déjà spontanément sur vos factures. Donc ça ne change pas. E-reporting, transmission des données de transactions qui ne sont pas solubles dans la facturation électronique, c'est-à-dire des transactions à caractère international ou intracommunautaire, et des transactions avec des non-assujettis. Dans les deux cas, ce qu'on demande aussi aux entreprises, dans une optique de pré-remplissage, c'est de transmettre également les données relatives au paiement pour les prestations de services. Pourquoi les données de paiement pour les prestations de services? Tout simplement parce qu'on a besoin de cette information pour le pré-remplissage. En France, on a une modalité de détermination de l'exigibilité de la taxe à la valeur ajoutée sur ces prestations particulières à la date de l'encaissement. Donc, concrètement, pour proposer le pré-remplissage, on a besoin de cette information et on demande uniquement pour ces transactions à l'entreprise de transmettre également ses données d'encaissement, donc la date d'encaissement de ses prestations. Qu'est-ce qu'une facture électronique ? Alors, une facture électronique, on a aujourd'hui quelques sondages qui commencent à essaimer sur le sujet de la réforme, quelques-uns qui ont été publiés en février dernier, et en les lisant, on s'aperçoit que les entreprises commencent à avoir une bonne connaissance du fait qu'il y a une réforme qui va arriver en 2024, mais en même temps, ces mêmes entreprises, quand on leur pose la question « qu'est-ce que c'est pour vous qu'une facture électronique ?», elles répondent « c'est un PDF avec un mail ». On attache un PDF avec un mail qu'on envoie à son client. C'est pas le cas. C'est quoi une facture électronique ? C'est une facture qui comporte un socle minimum de données sous format structuré. Ça veut dire quoi des données sous format structuré ? Ce sont des données qui sont directement exploitables par une machine, tout simplement pour faire du retraitement, parce que quand on va vous proposer à terme la déclaration pré-remplie, il va y avoir du retraitement de données à réaliser, de l'agrégation, des calculs, etc. Et de fait, il va nous falloir un certain nombre de données qu'on puisse directement valoriser. De fait, on a imposé trois formats de transmission des données en France, contrairement à l'Italie qui n'en avait imposé qu'un seul. Trois formats pour laisser aussi le choix aux entreprises pour pouvoir s'adapter en fonction de leur maturité numérique, de leurs attentes, de leurs besoins, et puis aussi de l'État pour les plus grandes et les plus avancées en termes de dématérialisation, l'état de leur système d'information. On a choisi deux formats structurés, UBL et C2I, qui correspondent en réalité au format européen qui existe déjà. C'est important dans le contexte d'une proposition de directive qui a été mise sur la table par la Commission européenne en décembre dernier, alors qui est en cours de discussion, et il est prématuré de s'aventurer sur ce qu'elle pourra donner in fine. Mais ce qui est certain, c'est que parce qu'on a retenu ces formats-là, il n'y aura pas de double coût pour les entreprises, puisque ce sont déjà des formats européens. Et par ailleurs, on a retenu aussi un format mixte qui permet à une entreprise d'avoir à la fois des données structurées à transmettre à l'administration pour répondre à ses obligations légales, mais aussi pour éviter de modifier trop son modus operandi, ses habitudes, pourquoi pas, aussi un lisible qui ressemble à un PDF. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, elle peut avoir le meilleur des deux mondes, et ça peut être aussi important pour les TPE, PME, micro-entreprises. C'est moins intéressant pour les grandes entreprises ou les grandes ETI. En revanche, pour des entreprises de plus petite taille, c'est un format qui peut être intéressant au quotidien. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une trajectoire d'extinction du PDF. Trajectoire d'extinction du PDF, ça veut dire que concrètement, au 31 décembre 2027, donc 2 ans après le déploiement de la dernière vague de facturation électronique, on attend la fin du PDF. Ça veut dire aussi que pendant 2 ans, il va y avoir une phase de tolérance vis-à-vis des entreprises. On est conscient que tout le monde n'a pas la même appétence et la même capacité à se projeter dans le numérique. Donc, on laisse aussi aux entreprises la possibilité de tout simplement s'acculturer au numérique à leur rythme. Il est certain que plus vite les flux PDF s'éteindront, mieux ce sera cependant pour nous, et in fine pour le service à rendre par l'administration fiscale aux entreprises en conséquence. Je vais passer rapidement sur cette slide qui en réalité reprend très largement ce qu'on vient de se dire, à savoir que la facture électronique va substituer à la facture papier, à la facture PDF, et que en revanche, comme tout à l'heure, j'indiquais qu'il n'y avait pas d'évolution dans les règles applicables et que vous connaissez en matière de TVA, il n'y en a pas plus en matière de comptabilité, il n'y en a pas plus en matière de réglementation sur les délais de paiement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la date d'émission de la facture fait foi et détermine le délai de paiement. Eh bien, il n'y a pas de modification à ce niveau-là. En revanche, parce qu'on sait bien qu'une entreprise, elle a un intérêt objectif, un fournisseur a un intérêt objectif à être payé, on n'a pas normé le délai d'envoi de la facture. On a en revanche normé le délai de traitement des plateformes de dématérialisation qui ont au maximum 24 heures pour pouvoir traiter les factures électroniques qui leur seront confiées par les entreprises. Donc vous voyez, il y a un certain nombre d'éléments de souplesse qui vont permettre aux entreprises d'entrer progressivement dans la réforme, d'abord avec un modèle en Y, donc ce qui va permettre aux entreprises qui certes doivent choisir une plateforme de dématérialisation pour rentrer dans la réforme, mais pourront tout simplement choisir la plateforme de leur choix entre le portail public et les plateformes de dématérialisation partenaires. Sur le portail public, il y aura une pluralité de modes d'accès, de transmission, que ce soit le DI, l'API ou le mode portail. On aura pour les entreprises qui le souhaitent, une tolérance sur le PDF jusqu'en 2027. On va avoir aussi une pluralité de formats, donc en fonction de ce que les entreprises voudront choisir, format structuré ou format mixte. Et surtout, on a une trajectoire de collecte progressive des données entre 2024 et 2026. Les données de facturation, on ne les demande pas toutes. On ne les demande pas non plus toutes en même temps. Ça veut dire que progressivement, vous pourrez augmenter votre niveau de transmission à l'administration. Enfin, surtout pour les plus petites entreprises en particulier, il va y avoir la mise à disposition de ce portail public de facturation qui va être en fait le portail Chorus Pro redimensionné, pour aider les PME, TPE qui le souhaiteront à passer à la facturation électronique. Je rappelle que le portail public de facturation va délivrer un service minimum et que ce service, il sera gratuit pour les entreprises. Quelques éléments sur le volet e-reporting. Donc la slide qui s'affiche à l'écran reprend les fréquences et délais de transmission du e-reporting. Il y a grosso modo donc quatre régimes distincts, mais chaque entreprise n'en appliquera effectivement qu'un seul. Si on est franchisé en base, la transmission, la période de référence des données à transmettre sera de 2 mois. Donc, on va transmettre tous les 2 mois avec un dépôt, une transmission des données entre le 25 et le 30 du mois suivant. Pour les entreprises qui sont soumises au régime simplifié d'imposition de TVA, donc le régime, la période de référence, c'est le mois. Dépôt entre le 25 et le 30 du mois suivant également. Pour les entreprises qui auront opté pour le régime réel normal trimestriel, période de référence le mois également, avec un dépôt le 10 du mois suivant. Et pour les entreprises qui sont soumises au régime réel normal mensuel, trois transmissions au mois, pour la première du 10, du 1 au 10, pour la deuxième du 11 au 20 et pour la troisième du 21 à la fin du mois, avec des dépôts respectivement le 20, le 30 et le 10 du mois. 10 du mois suivant. Pourquoi avoir pris ces délais de transmission et périodes de transmission? Tout simplement parce que le critère du régime de TVA, en réalité, il est bien connu de l'entreprise, contrairement à d'autres critères sur lesquels on avait réfléchi à l'époque, qui étaient moins maîtrisés, moins connus par les chefs d'entreprise. Là, toute entreprise connaît son régime de TVA, donc c'est de façon relativement simple comment se situer à ce niveau-là. On a beaucoup concerté, notamment avec les fédérations professionnelles sur ce sujet. Sur le régime réel normal mensuel, il fallait normer les flux. Pourquoi ? Parce que même pour l'administration fiscale, ça suppose des retraitements ensuite pour proposer le pré-remplissage de déclaration de TVA, donc il faut un minimum de temps pour opérer ces retraitements. Et enfin, pour un certain nombre d'entreprises, notamment au sein de notre panel de grandes entreprises, elles nous ont demandé également de pouvoir normer un minimum les flux, tout simplement compte tenu de la volumétrie des données qu'elles devaient transmettre également. Donc là, pour le coup, ça a été fait à la demande des entreprises et l'obligation est une transmission 3 fois par mois, sans préjudice de transmission sur un rythme plus élevé pour les entreprises qui le souhaitent. Et on sait que certains secteurs économiques, on va dire particulièrement intensifs, notamment en termes de données de transaction avec des particuliers, vont le souhaiter. Je pense notamment au secteur de la grande distribution, pour qui cette transmission sur un rythme plus élevé est une souplesse dans la mise en place de la réforme. Sur la transmission des données de paiement, la logique est la même, c'est-à-dire que le critère de référence, c'est le régime de TVA de l'entreprise, et en fonction du régime de TVA, on a une période de référence à transmettre et un dépôt à effectuer à date. Donc, pour les entreprises qui bénéficient de la franchise en base, la période de référence est de 2 mois, avec un dépôt entre le 25 et le 30 du mois suivant. Pour les entreprises soumises au régime réel simplifié d'imposition, la période de référence, c'est le mois également, avec un dépôt entre le 25 et le 30 du mois suivant. Et enfin, pour les entreprises qui sont au régime réel normal mensuel ou trimestriel, on est sur une période mensuelle avec un dépôt le 10 du mois suivant. L'idée étant de tenir compte, certes à la fois des contraintes du pré-remplissage, mais aussi de la capacité, enfin du délai nécessaire pour les entreprises à procéder en tant que de besoin au lettrage de leurs factures. Comment également transmettre l'ensemble de ces factures électroniques et de ces données. On va parler ici du rôle des plateformes de dématérialisation, qu'il s'agisse du portail public ou des plateformes de dématérialisation partenaires. Vous voyez sur le schéma qui s'affiche à l'écran, la dernière brique du dispositif, qui est l'administration fiscale, auprès de qui vont redescendre l'ensemble des données de transaction, l'ensemble des données de facturation. Mais pour en arriver là, il y a des étapes en amont, qui sont importantes et qui vont mettre en place deux catégories d'acteurs. Le portail public de facturation, qui va être opéré par l'Agence pour l'informatique financière de l'État, et les plateformes de dématérialisation partenaires. Le portail public de facturation, il va faire 3 choses. La première chose, c'est qu'il va mettre à disposition des entreprises qui le souhaiteront un socle de services minimum gratuit pour passer à la facturation électronique, pour passer au e-reporting. Service minimum, ça ne veut pas dire service au rabais. Ça veut simplement dire qu'il va proposer aux entreprises des fonctionnalités gratuites leur permettant de remplir leurs obligations légales. En revanche, si l'entreprise veut d'autres types de services, des besoins plus sophistiqués en matière de facturation électronique, elle devra aller s'adresser à d'autres types d'opérateurs. Je prends un exemple plus concret. Si je suis un micro-entrepreneur avec un flux de facturation compris entre 10 et 20 factures par mois, le service du portail de facturation, du portail public, peut apparaître adapté. C'est le choix de l'entreprise. Elle peut se dire que si on est simplement sur un besoin d'échange de factures avec un client et de transmission des données à l'administration, donc le périmètre strict de la réforme, le service est totalement suffisant pour l'entreprise qui, en plus, pourra assurer la conservation de ses factures directement sur le portail public, à titre gratuit également. Si, en revanche, on est une PME un peu plus importante, avec un volume de facturation mensuelle un peu plus important, on peut se poser la question, certes, du portail public, mais si en plus on est intéressé par d'autres types de services, par exemple de l'aide au recouvrement, par exemple une intégration un peu plus forte de la chaîne de facturation avec par exemple la chaîne comptable ou avec une chaîne logistique, ben là ce sont des besoins auxquels le portail public, parce que ce n'est pas ses missions d'intérêt général, ne va pas être en capacité de satisfaire. Donc, il va falloir pour l'entreprise, possiblement, avoir recours à d'autres opérateurs que sont les plateformes de dématérialisation partenaires. Ces plateformes de dématérialisation partenaires, elles vont proposer un socle de services qui répond aux enjeux de la réforme, mais elles vont aussi proposer d'autres services aux entreprises. Donc les entreprises devront également se renseigner sur l'offre de services de ces partenaires, on y reviendra dans quelques minutes. Je termine sur le volet du portail public. Je disais tout à l'heure, 3 missions. 3 rôles principaux du portail public de facturation, dont le premier était la mise à disposition, la mise à disposition d'un socle de services gratuit pour les entreprises. Deuxième mission, c'est maintenir un annuaire, tout simplement pour que les autres plateformes, les plateformes privées, puissent arriver à identifier leurs homologues et donc à faire transiter des factures de plateforme à plateforme. Et 3e mission, c'est tout simplement de concentrer l'ensemble des données qu'il va recevoir, à la fois des plateformes partenaires, à la fois directement de certains fournisseurs, pour pouvoir les faire redescendre, in fine, au système d'information de l'administration fiscale. Je ne reviens pas sur le rôle du portail public, par contre, quelques éléments en plus des plateformes de dématérialisation partenaires. Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme partenaire ? Une plateforme partenaire, c'est un opérateur de dématérialisation privé qui va être autorisé à interagir avec le portail public de facturation et très concrètement, à avoir notamment accès à l'annuaire du portail public de facturation, donc pour pouvoir tout simplement échanger des factures avec d'autres plateformes de dématérialisation. Pour avoir la qualité de partenaire, la plateforme va devoir se faire immatriculer. Une immatriculation technique qui va être délivrée par l'administration fiscale. Et pour obtenir cette immatriculation, la plateforme va devoir présenter un dossier à l'administration. Un dossier où elle va devoir montrer, certes qu'elle est à jour de ses obligations fiscales, de déclaratives et de paiement. C'est toujours mieux quand on travaille avec l'administration fiscale. Être également en capacité de démontrer la solidité de ces solutions en matière de système d'information. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure du travail avec les trois formats du socle, UBL, C2I, FactureX. Tout ça, c'est pas forcément le sujet d'une micro-entreprise, c'est pas forcément le sujet d'une TPE. En revanche, c'est vraiment la responsabilité de la plateforme qui doit être en capacité de travailler avec ces formats. On parlait aussi des rythmes de e-reporting. Ça aussi, c'est le sujet des plateformes puisqu'elles vont devoir être en capacité de tenir le rythme de transmission. Donc, des éléments techniques, des éléments également en termes de protection des données. Protection des données à caractère personnel, puisque les données à caractère personnel ne doivent pas circuler vers l'administration. Et également, protection des données hébergées par l'opérateur. Ça veut dire que l'opérateur doit montrer quels sont ses engagements vis-à-vis de l'administration en termes de protection des données, très concrètement en termes d'hébergement des données sur le territoire d'un État de l'Union européenne et pas ailleurs. Le service d'immatriculation a ouvert en mai, donc c'est tout récent, il a ouvert en mai, il est situé à Lille, il est compétent sur l'ensemble du territoire français, donc ça veut dire que une plateforme de dématérialisation, quelle que soit sa localisation, quelle que soit sa nationalité, elle n'a qu'un seul interlocuteur, c'est le portail public de c'est le service d'immatriculation. Service d'immatriculation qui est vraiment son interlocuteur de référence, qui va être compétent à terme pour animer, on va dire, le réseau des plateformes de dématérialisation partenaires, mais au premier chef, à l'heure actuelle, tout simplement pour répondre à leurs questions, pour les aider, entre guillemets, à monter leur dossier d'immatriculation, pour instruire ce dossier, délivrer l'immatriculation si le dossier est satisfaisant, mais aussi le refuser si ce dossier nous paraît trop faible, nous paraît pas remplir les conditions de sécurité minimum qu'une entreprise ait en droit d'attendre de ce type de prestataire. Et in fine, parce que l'immatriculation a une durée de vie limitée, 3 ans, c'est lui aussi qui sera responsable du renouvellement de l'immatriculation en temps et en heure. À l'heure actuelle, vous n'avez pas de plateforme de dématérialisation qui sont déjà immatriculées. Mais à terme, on aura une liste de plateformes partenaires qui sera mise en ligne sur le site de l'administration fiscale, donc le site impots.gouv sur la page partenaire, qui est déjà créée, où vous pouvez déjà aller, en tant que de besoin, vous renseigner sur qu'est-ce que c'est qu'un partenaire, quel va être son rôle, ce que vous pouvez attendre de lui. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de dossier qui ait reçu l'immatriculation. Ça veut dire quand même que, comme toute grande réforme, il y a des précautions, il y a une forme de vigilance à avoir quand on est un chef d'entreprise. Cette vigilance, c'est quoi ? C'est tout simplement que, à l'heure actuelle, on peut d'ores et déjà être démarché, et même le jour où on aura des plateformes immatriculées, il peut encore y avoir du démarchage des entreprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le réflexe de bonne conduite, la règle de salubrité publique, entre guillemets, pour un chef d'entreprise qui est démarché, c'est de se poser la question: est-ce que la personne qui se dit partenaire est vraiment un partenaire? Comment je vérifie? Je vais sur le site impots.gouv.fr, je regarde la liste des partenaires. Si l'entreprise y est, très bien, je peux écouter ce qu'elle a à me raconter, comparer les offres, voir si je suis intéressée. En revanche, si l'entreprise se dit partenaire à tort et que vous constatez donc qu'elle n'est pas sur les listes, faut pas aller plus loin. Il n'y a pas lieu de contracter avec avec cette entité qui se prétend à tort partenaire. Voilà ce qu'on peut dire à date sur la réforme. Peut-être quelques mots rapides sur la communication et l'accompagnement également. On a mis en place différentes initiatives d'ores et déjà, même si ce ne seront pas les seules, pour accompagner les entreprises sur la facturation électronique. Première chose, c'est que l'année dernière, on a créé une communauté des relais, tout simplement pour organiser les relais de communication et d'accompagnement, coordonner les actions des uns et des autres. Qui est-ce qu'on a dans cette communauté ? On a des fédérations professionnelles, de tout crin, de tout bord, que ce soit par exemple le MEDEF certes, mais aussi la FCD, donc la grande distribution, aussi les fédérations d'artisans boulangers, de la restauration, collective ou individuelle, etc., etc. L'idée, c'est que chacun puisse se retrouver au sein de cette communauté pour partager des messages communs, partager aussi des actions de sensibilisation à destination des entreprises. On a donc ce type d'action, des webinaires, on a des fiches également qui sont mises à disposition des entreprises sur le site impots.gouv que vous pouvez d'ores et déjà aller consulter pour pouvoir vous renseigner, vous poser les bonnes questions pour passer à la facturation électronique, mais on a aussi d'autres choses au sein du réseau de la Direction Générale des Finances Publiques. On a la chance d'être une administration à réseau, donc ça veut dire une administration, on a des points de contact entre guillemets territoriaux. Donc ça veut dire qu'on a mis en place l'année dernière un réseau de 150 référents facturation électronique. Concrètement, vous avez à minima un référent dans chaque direction départementale ou chaque direction régionale des finances publiques vers qui une entreprise peut se tourner si elle a des questions. Ces référents, ils sont assez nombreux désormais, ils font pas forcément tout, mais ils sont déjà très présents sur des actions de sensibilisation qui sont organisées dans les territoires. On en a eu par exemple dans le Cantal, dans la Haute-Loire, dans la Moselle, le Bas-Rhin également, dans les Hautes-Pyrénées. D'autres actions sont en cours, je vais pas tout citer, mais ça permet aussi de se représenter qu'au niveau local, il se passe des choses également avec les MEDEF territoriaux, avec les antennes locales aussi de la CPME ou de l'UDP, ou tout simplement les représentants locaux de l'ordre des experts comptables, les CCI, les CMA et les chambres d'agriculture. Il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place à leur niveau. De notre côté, sur la communication interinstitutionnelle, il est certain qu'il va y avoir une campagne de communication grand public, c'est certain, au cours de l'année probablement, mais on a d'ores et déjà, un certain nombre de rendez-vous auprès des grandes entreprises. On a commencé avec les grandes entreprises, avec des campagnes de mass mail. Pourquoi les grandes entreprises? Tout simplement parce que c'est celles qui ont des travaux SI d'adaptation les plus importants. Donc, dès octobre 2022, on a réalisé un premier mass mail les invitant à se renseigner sur la réforme, à engager leurs travaux d'adaptation. Et on en a refait un le 20 avril dernier, tout simplement pour les inviter à se rapprocher de leurs clients ou de leurs fournisseurs selon les cas, de se rapprocher aussi de leurs éditeurs de logiciels pour bien vérifier que eux aussi avaient pris la mesure de la réforme et avaient commencé à adapter leurs solutions techniques. On aura aussi des initiatives en ce sens vis-à-vis des plus petites entreprises, donc des campagnes mass mail également, mais bien évidemment, on va attendre peut-être la temporalité du pilote parce qu'on va avoir une expérimentation sur ce projet, un pilote qui va se déployer en principe au cours du premier semestre de l'année 2024 et qui sera, je vais dire comme ça, peut-être un peu le juge de paix, c'est-à-dire go, no go, c'est le principe d'un pilote. Si les choses se passent bien, si on arrive à tester les solutions de bout en bout, quand je dis de bout en bout, c'est pas simplement la solution du portail public en interne administration entre la DGFiP et la IFE, c'est vraiment aussi avec les entreprises, avec les opérateurs de dématérialisation, avec les PDP, les éditeurs de logiciels. Si collectivement les choses se passent bien, ce n'est qu'ensuite qu'on ira vers une phase de généralisation. Et enfin, un dernier point, c'est peut-être tout simplement vous mettre en visibilité si vous ne l'avez pas encore eu l'occasion de la consulter. La page impôts.gouv, je passe à la facturation électronique sur laquelle vous avez déjà un certain nombre d'éléments qui permettent sans doute de répondre à vos questions en matière de facturation électronique, de e-reporting. Vous avez en bas à droite de l'écran quelques exemples de fiches qui ont été réalisées avec certaines fédérations professionnelles en co-rédaction. Vous avez une FAQ également qui permet aussi de s'approprier la réforme en tant que de besoin, des éléments pour certaines entreprises, ça peut être intéressant sur la situation particulière des transactions avec l'outre-mer, donc avec les DOM, avec les COM, etc., selon les cas. Et puis, un tas d'autres documentations, d'éléments de vulgarisation, de pédagogie autour de la réforme. On a un tout petit peu dépassé le temps imparti sur... Non ? Ah bah écoute, parfait. Donc si on n'a pas dépassé, c'est encore mieux. Par contre, du coup, on a peut-être un peu de temps pour quelques questions-réponses.
Alors, il va nous falloir du temps parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de questions en ligne. Alors, juste déjà rappeler à tous ceux qui nous écoutent que le support va leur être diffusé après. Ce webinaire, et donc ils retrouveront un certain nombre des éléments qui sont l'objet de leurs questions dans ce support. Peut-être alors on va prendre un peu dans l'ordre d'arrivée en espérant que ce soit pas trop trop confus. On avait les premières questions. Les critères, je pense que c'était les critères de définition des entreprises. Est-ce que je suis ETI, PME, grandes entreprises? Est-ce que c'est à respecter au niveau français ou au niveau européen?
Alors, ces critères, en réalité, ce sont des critères européens. Tout simplement parce que enfin, les critères en question pour savoir si je suis une PME, une micro-entreprise, une ETI ou une grande entreprise, en réalité, ils existent, ils préexistent au niveau européen, et ce qu'on a en France, c'est la transposition en fait de ce dispositif européen. Donc, ce sont déjà des, on va dire, des concepts maîtrisés, entre guillemets, et communs au niveau des différents États membres. C'est la raison pour laquelle on a pris aussi ces critères, ces définitions. Un point particulier peut-être à noter par rapport à la question qui est posée, c'est peut-être même deux points. Le premier, quand est-ce qu'on apprécie la taille de l'entreprise? Quand est-ce qu'on sait si, du point de vue de la réforme, on doit être considéré comme une TPE, PME, comme une micro-entreprise ou comme une ETI ou comme une grande entreprise? En fait, il y a la date du 30 juin 2023. Il faut regarder le dernier exercice clos de l'entreprise à la date du 30 juin 2023. Si on est une entreprise qui se crée postérieurement, ce sera tout simplement la date du premier exercice clos qui fera foi. Deuxième point peut-être préciser, quand on est une petite entreprise mais qu'on fait partie d'un grand groupe, qu'est-ce qui s'applique? Est-ce qu'on est considéré comme une grande entreprise et donc est-ce qu'on passe à la facturation électronique en émission aussi dès 2024? Ou bien est-ce qu'on est vraiment considéré comme une petite entreprise, ce qu'on est, et on passe en émission à la facturation électronique en 2026? Dans ce cas-là, si on est une petite entreprise, partie d'un grand groupe, l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 2022 précise bien que on apprécie la situation d'entreprise entité légale par entité légale. Ça veut dire quoi? Que quand on est une petite entreprise, on est une petite entreprise. Donc on n'est pas obligé, en tout cas l'administration ne force pas l'entreprise, on n'est pas obligé de passer à la facturation électronique dès 2024 en émission. Ça veut dire que on doit être en capacité de recevoir, donc choisir une plateforme, recevoir des factures électroniques, mais on n'est pas obligé tout de suite de passer à la facturation électronique. On peut, si on le souhaite, attendre 2026. Après, ça ne préjuge pas des stratégies, on va dire, un peu plus intégrées, de logique de groupe. Si une tête de groupe estime que globalement, il y a des économies d'échelle à faire au niveau du groupe, et donc que ça a un sens de passer collectivement dans une stratégie globale à la facturation électronique, le texte ne s'y oppose pas.
Merci beaucoup pour ces précisions, Céline. On a effectivement beaucoup de questions quand même sur le périmètre et effectivement la façon dont on doit apprécier ces critères. Donc, ce que vous venez de préciser, c'est vraiment bien une approche entité par entité, qu'on fasse partie d'un groupe français ou d'un groupe international d'ailleurs. Hein, c'est vraiment des critères qu'on applique à l'entité française finalement, à l'entreprise française prise individuellement.
C'est ça, c'est exactement ça, y compris donc quand on a quand on est une filiale d'entreprise étrangère, si on est établi en France, on regarde la situation entité légale par entité légale, donc là en l'occurrence de l'entité qui va être établie en France, quand bien même elle est étrangère. Une précision, peut-être que ça explique aussi pourquoi il y a ces questions. C'est vrai que au moment du déploiement de la facturation électronique dans le secteur public, c'était pas exactement le dispositif qui avait été mis en place. Et on avait quelque chose de beaucoup plus agrégé, de beaucoup plus intégré, qui laissait moins de marge de manœuvre aux entreprises, puisque en réalité, une entreprise à l'époque, quand elle était une petite entreprise partie à un grand groupe, elle devait passer en principe à la facturation électronique en même temps que le grand groupe. Là, c'est pas le cas. On a regardé, on a tiré les conséquences de l'expérience qu'on avait déjà eue sur cette première réforme. On s'est dit qu'on n'allait pas nécessairement reproduire, tout simplement parce qu'on a 4 millions d'entreprises en France. Sur ces 4 millions d'entreprises, 3,8 millions de micro-entreprises en particulier. Et sur ces 3,2 millions, on a a priori 1 million, 1,5 million à peu près, qui ne facturent que sous format papier. Donc, chacun son rythme, mais il faut en tenir compte.
On va tenter un oui-non sur une ou deux, sur une petite série de questions. Impact sur les notes de frais.
Alors ça, je pense que effectivement, c'est dans la FAQ, voire surtout dans les spécifications externes qui sont en ligne. Là, je vais dire joker parce que objectivement, je ne sais plus.
c'est assurément dans la FAQ. La FAQ, pardon, je ne sais pas si quand on est deux micros. Là aussi, précision, quand on va vous envoyer le document, on vous enverra aussi un lien vers la page dédiée sur impots.gouv.fr. Voilà, où vous avez tous les éléments. Vous retrouvez la FAQ, puis vous retrouvez des fiches qui commencent à être publiées, qui seront assez intéressantes, notamment dédiées au TPE-PME.
Après, dans les questions qui sont relatives au champ, on a reçu beaucoup de questions qui sont relatives aux échanges intra-UE. Comment ça s'articule exactement au niveau facturation électronique et e-reporting? Et on a aussi toute une série de questions pour les relations entre assujettis et non-assujettis. Alors, pas tellement le B2C, c'est-à-dire les individus, les consommateurs, mais plutôt les OSBL. Par exemple, quand on facture à une association ou à l'inverse, si une association doit facturer à un assujetti, voilà, là, il y a beaucoup de questions sur ces types de situations. La FAQ, je crois, donne déjà quelques précisions, mais c'est vrai que c'est encore des sujets qui suscitent beaucoup d'interrogations.
Alors, dans les deux cas, en réalité, on n'est pas sur de la facturation électronique dans le cadre de la réforme. Quand on est dans du B2C ou bien avec un autre non assujetti, par exemple une association à but non lucratif, on n'est pas dans le champ d'application de la facturation électronique. On est en revanche dans le e-reporting. Donc ça veut dire que périodiquement, je renvoie pour le coup au rythme de transmission qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était les slides avec les flèches roses, les flèches vertes, on va avoir une entreprise qui va ponctuellement devoir envoyer des données de façon agrégée. Par exemple, quand on est avec des particuliers, un Z2 caisse agrégé qui ne permettra pas d'individualiser l'ensemble de la transaction. Pour un non-assujetti qui serait association, c'est le même dispositif, c'est le même principe. Pour des transactions intracommunautaires, c'est aussi le même principe, avec une petite différence en termes de données. Effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas imposer la facturation électronique. Donc, quand vous êtes une entreprise établie en France, que vous échangez des factures avec une entreprise qui est établie dans un autre État membre de l'Union européenne, tout simplement, on ne peut pas, nous, État français, République française, imposer la facturation électronique, tout simplement parce que il y a un principe de territorialité qui régit les règles d'application de la TVA, et là, en l'occurrence, on ne peut pas le dépasser. Donc, ça veut dire que ces transactions-là, vous allez continuer à émettre vos factures, je vais le dire entre guillemets de façon traditionnelle, mais le traditionnel, en réalité, c'est comme vous le faites déjà. Si vous faites des factures papier, vous pouvez continuer à faire des factures papier. Si vous êtes déjà sur des flux de nature dématérialisée avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez à l'international ou au niveau européen, vous pourrez aussi continuer. Parce que ce qu'on demandera, c'est pas tant la facture électronique, on ne peut pas l'imposer, et donc on n'impose pas. En revanche, ce sont un certain nombre de données de facturation, et les données de facturation que l'entreprise va transmettre en e-reporting dans ce cas-là, elles sont strictement identiques aux données de facturation que vous connaissez dans le périmètre de la facturation électronique lorsque vous émettez une facture de fournisseur à client dans des opérations domestiques. Donc c'est là plutôt, c'est pas réellement les données qui vont évoluer, qui vont changer dans ce cas-là. C'est vraiment comme la facturation électronique, les données de facturation domestique. En revanche, c'est le mode d'acheminement. Vous allez périodiquement faire une déclaration, entre guillemets, une transmission électronique vers l'administration en retenant soit une PDP, une plateforme partenaire, soit le portail public de facturation pour ce faire.
Puisque vous évoquez le portail public et les plateformes, on a reçu énormément de questions sur les plateformes. Vous y avez répondu d'ailleurs en partie en indiquant que le service d'immatriculation, venait de s'ouvrir. On a eu beaucoup de questions sur comment est-ce que j'accède à la liste des plateformes. Bon, donc vous avez donné la réponse. Pour l'instant, on comprend qu'il n'y en a pas encore. Beaucoup d'entreprises nous disent, mais comment est-ce que je peux choisir ma plateforme si personne est encore immatriculé. Il y a une sorte d'accélération du temps un petit peu en ce moment. Donc voilà, ça c'est une première série de remarques. Et puis il y a aussi la question de savoir comment est-ce que je peux peut-être me préparer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus? Vous l'avez évoqué, le pilote, mais qui peut participer à ce pilote? Est-ce que les plateformes vont être dans le pilote? Combien il va y avoir de plateformes? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler? Est-ce que vous avez peut-être une estimation, boule de cristal, peut-être à nous dévoiler? Voilà, c'est un petit résumé des nombreuses questions qu'on a reçues sur les plateformes.
Alors sur les plateformes, avant d'enchaîner sur le pilote, comment d'abord se préparer pour une entreprise? La première question à se poser, si on n'est pas encore familier du projet, c'est quels sont mes besoins? Et pour connaître ces besoins, il faut connaître ses flux, donc cartographier ses flux. La plupart des grandes entreprises ont largement commencé et ont même déjà dépassé cette phase, mais même quand on est une petite entreprise, il faut savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes en matière de facturation électronique. Une fois qu'on a fait ça, ça permet déjà de se dire, en se renseignant, parce que ça pour le coup c'est déjà possible, sur l'offre du portail public, est-ce que cette offre est adaptée à mes besoins? Si j'ai des besoins peu sophistiqués, pourquoi pas? Si j'ai envie d'aller au-delà de l'obligation légale et de rechercher peut-être d'autres opportunités sur la facturation électronique comme le font un certain nombre d'entreprises déjà, c'est le moment de s'interroger sur ce qu'on a envie de faire en termes de dépassement de ce qui est une obligation légale. Qu'est-ce que dans mon quotidien, la facturation électronique en tant que chef d'entreprise peut m'apporter? Et à partir de là, ensuite, quand on en aura, on ira rechercher comparer des offres de PDP. Il y a une chose qui est assez importante à l'heure actuelle, c'est qu'on peut constater, alors c'est moins le cas au niveau des TPE, PME, ce que j'entends, mais qu'on a énormément d'entreprises qui en réalité travaillent déjà avec des opérateurs de dématérialisation, notamment de grandes ETI, les grandes entreprises évidemment. Ce qu'elles font en réalité bien souvent, c'est qu'elles inversent un peu le prisme. Elles se posent pas la question de comment je vais choisir ma PDP. J'ai déjà un ou plusieurs opérateurs de dématérialisation. Il va falloir peut-être que j'étende ce que je sais faire à l'heure actuelle pour passer tout dématérialiser, mais en même temps, j'ai déjà des partenaires. Et je vais essayer de motiver mes partenaires pour que tout simplement un certain nombre d'entre eux se portent candidats à l'immatriculation. Dans bien des cas, à l'heure actuelle, c'est ce qu'on constate, en fait. On a des entreprises qui génèrent leur propre service provider, mais leur propre futur PDP. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de répondre à la question combien on va avoir en fait de PDP. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, hein, il n'y a pas de numerus clausus, de nombre limite de PDP. Dès l'instant où le dossier est solide, ça veut dire que dans la checklist de tout ce qu'on peut avoir au niveau réglementaire, ben, on est rassuré sur le fait que la plateforme remplit coche toutes les cases qu'on a mis, elle pourra avoir l'immatriculation. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de dire combien on en aura. Sur le pilote, alors effectivement, il y a un appel à candidature qui a été lancé en avril dernier, qui est toujours en cours, donc on peut toujours candidater. Peut-être, on verra, peut-être qu'on l'étendra peut-être un peu. En tout cas, on verra ça dans les prochains jours, parce que en principe, on a la première séquence de ce pilote qui doit s'achever, je crois, le 26 juin de mémoire. Qui peut candidater? Ben, tout le monde peut candidater. Quand je dis tout le monde, c'est les plateformes de dématérialisation, les éditeurs de logiciels, les entreprises de toute taille. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que même si tout le monde peut candidater, on ne candidate pas tout seul. De la même façon que quand on facture à un client, quand on veut tester la facturation électronique, on ne vient pas tout seul avec sa facture. On vient avec ses partenaires commerciaux, ou en tout cas ceux d'entre eux qui sont prêts aussi à vouloir participer à cette expérimentation. Donc ça veut dire qu'on va candidater, si on le souhaite, candidater de manière groupée. Vous avez sur la page, sur une page dédiée, sur la page facturation électronique d'impôts.gouv, l'ensemble du dossier de candidature que vous pouvez télécharger, consulter. L'idée, c'est qu'il y ait une lettre de motivation, tout simplement, des partenaires de l'équipe qui va vouloir intégrer le pilote. On met l'accent sur le rôle particulier dans l'organisation du pilote du chef d'équipe. Le chef d'équipe, ça va vraiment être un élément important du dispositif, parce qu'en fait, ça va être la personne qui va vraiment interagir au quotidien avec les équipes, notamment de l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui est en charge de la construction du portail public, et donc qui aura un rôle vraiment très important durant ce pilote. Ce chef d'équipe, ça va être l'interlocuteur de l'administration et de fait la courroie de transmission aussi pour l'ensemble de des membres de son équipe. Ça va vraiment être la personne ressource, un peu le chef d'orchestre de l'équipe, qui va faire remonter à l'administration les anomalies détectées, parce que faut être lucide, hein, c'est le but aussi d'un pilote, c'est détecter les bugs, détecter les anomalies et surtout les corriger ensemble. Donc il y en aura, il faut faire en sorte de les détecter. Donc l'idée, c'est vraiment de faire remonter toutes les difficultés, de participer à des points de partage, de coordination réguliers pendant le pilote, on les souhaite hebdomadaires avec les différents membres de l'équipe. Donc c'est aussi, pour le dire clairement, on serait ravis d'avoir des candidats au pilote encore à l'heure actuelle côté administration. Par contre, c'est une charge pour les entreprises, ça veut dire que certes, on va s'engager à tester des cas d'usage. On va définir le périmètre des cas à tester en bonne intelligence, on va dire candidat, équipe et puis administration, donc DGFiP, AIFE. Mais c'est aussi c'est un engagement quotidien de pouvoir tester, de se dégager un peu de temps justement pour que en juillet 2024, les choses se passent bien pour tout le monde.
Merci beaucoup pour ces précisions, Céline. Écoutez, je crois qu'on a déjà épuisé l'heure qui était dédiée à ce webinaire, mais peut-être ce qu'on peut préciser à nos participants, c'est qu'on a reçu énormément de questions, beaucoup de questions techniques très variées. Vous trouverez déjà des réponses dans la FAQ, hein, qui est déjà assez fournie. Pour le reste, vous pouvez toujours remonter les informations ou les demandes de questions via le MEDEF ou via directement la mission facturation électronique. Je voudrais juste vous poser une dernière question parce que j'ai vu cela apparaître dans notre liste de questions. Où trouver la liste des référents locaux? Et j'en profite pour dire que si je sais qu'il y a un certain nombre de fédérations professionnelles et de MEDEF territoriaux qui nous écoutent aujourd'hui, je crois que la DGFiP est est parfaitement disponible pour réaliser des événements en région, dans les territoires, dans les fédérations, notamment avec l'aide des référents locaux et des DGFiP locales. Donc peut-être est-ce que vous pouvez juste nous redire où est-ce qu'on peut trouver cette liste des référents?
Alors en fait, c'est la liste des référents, elle n'est pas totalement en libre service parce que on avait eu clairement une mauvaise expérience avec un opérateur commercial qui a souhaité s'en servir pour du démarchage. Nous aussi, on est victime du démarchage. Par contre, on l'a envoyé aux fédérations professionnelles qui sont membres de la communauté des relais, donc on peut, s'il y a besoin, les faire repasser. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les référents locaux, donc encore une fois, il y en a à peu près 150, un voire deux dans certains cas, par direction locale, direction départementale ou direction régionale des finances publiques. Ils sont à disposition pour répondre d'ores et déjà sur les questions en matière de facturation électronique que vous pourriez avoir. Ils sont aussi à disposition pour des entreprises, on va dire, des actions de sensibilisation. Je prenais l'exemple, par exemple, des Hautes-Pyrénées. Donc l'événement qui a eu lieu à Tarbes à la fin du mois d'avril, il a été co-organisé avec les fédérations professionnelles locales, dont le MEDEF territorial, avec la CCI et puis la DDFIP. C'est aussi le cas, on a régulièrement au niveau des tables rondes qui sont organisées, la dernière c'était à Strasbourg, il y en avait une à Nancy aussi le 22, et sur lesquelles il y avait des représentants, certes de l'ordre des experts comptables par exemple, des CCI, mais aussi des fédérations professionnelles. Donc ils sont vraiment dans leur rôle pour aller participer à des webinaires, pour aller participer pour certains à des YouTube Live aussi, pour répondre à différentes questions. Et puis tout simplement parfois aussi à des choses un peu plus classiques, c'est-à-dire tout bêtement des réunions d'information, des comités locaux d'usagers des professionnels, comme on peut les appeler dans le jargon des GFIP, donc nos CLUPRO, qui réunissent un peu toutes les sensibilités fédérations au niveau local. Ils sont vraiment à la disposition. J'ajoute juste un petit point quand même, on n'en a pas vraiment parlé, mais ce sera forcément le cas au moment du déploiement de la réforme. On peut mettre entre guillemets toute la documentation qu'on veut à disposition, et il faut qu'elle soit de qualité, c'est évident, et il faut inciter les uns et les autres à se renseigner suffisamment en amont pour pas être pris de court à la dernière minute. Il faut aussi être conscient, côté administration, et on l'est, que quand on a un souci, qu'on a peur de faire une erreur, le premier réflexe, c'est de se dire « Oh, il faut que je décroche mon téléphone et que je pose une question à quelqu'un en espérant qu'il sache me répondre. » Donc ça veut dire que ça, on en est conscient, et donc il y aura un dispositif d'assistance téléphonique aussi au moment du déploiement, pas maintenant, mais au moment du déploiement. En revanche, vous savez sans doute, parce que vous êtes des professionnels, parce que vous êtes assujettis à la TVA, etc., d'autres impositions également, qu'on a aussi à la DGFiP d'ores et déjà existant, ce qu'on appelle des centres de contact des professionnels, c'est-à-dire des plateformes téléphoniques dans le ressort de votre service des impôts des entreprises, qui peuvent aussi d'ores et déjà, si vous les appelez, vous donner un peu de renseignements en tant que de besoin sur la facturation électronique.
Merci beaucoup. L'exercice de tenir en une heure génère une certaine frustration parce qu'il y a beaucoup de questions sur lesquelles on n'a pas pu forcément répondre et on voulait vous offrir un cadre assez large et synthétique de bonne compréhension de voilà qu'est-ce qui va arriver et peut-être que le prochain, c'est ce que je vous annonçais tout à l'heure, la prochaine fois qu'on se retrouvera sur le même sujet, ce sera aussi pour entrer dans une sorte de cas par cas, je suis une entreprise, comment je vais réceptionner ma facture, comment je vais la faire, on verra ça, c'est aussi les outils, la réforme est encore en travail, il y a des choses qui se précisent. Et donc ça, on va pouvoir vous en rendre compte au fur et à mesure et dans les mois qui vont venir.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'académiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.